le magazine des Nations Unies. La sécurité est maîtrisée dans la ville de Goma et les éléments du M23 qui sont à 40 km ne peuvent franchir la ligne rouge Kikumba. Cette actualité de la semaine nous est livrée par le porte-parole de la MONUSCO que vous écouterez dans quelques instants. Le 24 octobre dernier, c'était la journée des Nations Unies. Alors ce dimanche, avec vous, nous allons essayer de comprendre des termes souvent utilisés dans ce système, tels que droit de veto, membre permanent ou membre non permanent. Ce sera dans notre rubrique décryptage. Et puis, comme invité, nous recevrons la juge de la CPI venue dans la capitale congolaise en marge du 10e anniversaire de la Cour pénale internationale.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à votre magazine du dimanche. La sécurité est maîtrisée dans la ville de Goma et les éléments du M23 qui sont à 40 km ne peuvent franchir la ligne rouge Kikumba. Le porte-parole de la MONUSCO l'a affirmé mercredi dernier lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Selon le colonel Félix Basset, la MONUSCO continue d'assurer son plan de protection de la ville, à renforcer les patrouilles et le poste de commandement conjoint avec la police nationale. L'objectif est de sécuriser la population contre toutes les velléités de ce mouvement rebelle. On écoute le colonel Basset au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Maintenant, le plan de défense ou le plan de protection interne de la ville de Goma n'a rien à voir avec les mesures administratives qui ont été prises par les autorités provinciales de la province du Nord Kivu. Nous continuons avec les autres forces de sécurité à protéger Goma, à mener des patrouilles dans Goma pour sécuriser les populations urbaines de Goma. D'ailleurs, vous avez dû aussi noter que depuis que nous avons mis en place un poste de commandement opérationnel conjoint au niveau de la PMC de Goma et que une coordination satisfaisante a été observé dans la conduite des patrouilles qui se font de jour et de nuit dans Goma, vous avez dû constater avec moi qu'il y a eu une baisse significative des incidents qu'on avait enregistrés il y a 3 ou 4 semaines à Goma, constitués de jets de grenades, de tueries sans discrimination. Et aujourd'hui, la sécurité est maîtrisée dans la ville de Goma par les FRDC, par la PNC et par la force de la MONUSCO qui travaille en parfaite collaboration. Cette coopération est fructueuse au bénéfice des populations de Goma.
Par ailleurs, le porte-parole militaire de la MONUSCO a dénoncé le recrutement forcé d'environ 30 jeunes par le M23 au village de Biruma. C'est à 12 km au sud de Rutshuru, ainsi que de graves violations des droits de l'homme commises sur les populations locales.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le 24 octobre dernier, la famille onusienne a célébré la journée des Nations Unies. À cette occasion, le magazine des Nations Unies a voulu savoir ou encore comprendre des concepts tels que droit de veto, membre permanent ou membre non permanent à l'instar du Rwanda. Pour ce faire, nous recevons le porte-parole de la MONUSCO qui décrit ces différents concepts. Manu Tchemounoubaï s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Monsieur Mounoubaï, bonjour.
Bonjour.
La famille onusienne fête ses 24 octobre, la journée des Nations Unies. Et nous allons décortiquer avec certains concepts qui sont familiers au sein des Nations Unies, mais qui sont méconnus plutôt ou peu connus du grand public. Et nous allons commencer au niveau du Conseil de sécurité. Il existe ce qu'on appelle le droit de veto. C'est quoi le droit de veto, monsieur Mounoubaï?
Lorsque l'Organisation des Nations Unies a été mise en place, les grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont compris la nécessité de mettre en place une telle organisation. Néanmoins, ils se sont arrogés des droits et privilèges en fonction donc du poids qu'ils représentaient à l'époque, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique et économique. Le droit de veto que se sont donnés les 5 pays permanents à l'époque, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, l'URSS, les États-Unis d'Amérique et la Chine, c'était que toute décision qui devait sortir du Conseil de sécurité devait être, ne devait pas être voté négativement par un de ces pays. Donc, lorsqu'il y a un vote négatif d'un de ces pays, c'est ça le droit de veto, parce que alors la décision ne passera pas.
Une précision, s'il vous plaît. Vous avez parlé en fonction de leur poids, en fonction de leur importance et de leur poids. Qu'est-ce que cela signifie par rapport aux autres pays?
Nous sortions de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait beaucoup de pays qui étaient affectés. Il y avait beaucoup de pays qui ont émergé de cette période difficile avec un poids prépondérant sur le plan diplomatique, politique et économique. Il y a des pays qui ont perdu, comme l'Allemagne, au cours de cette guerre. Donc, ces pays qui, à l'époque, représentaient donc ce poids politique, diplomatique et économique, c'est eux qui étaient derrière la création de l'Organisation des Nations Unies qui a remplacé la Société des Nations. Donc, ces pays-là que j'ai nommés.
Est-ce que nous pouvons avoir aujourd'hui un exemple concret, donc dans les temps qui courent, où le droit des veto a pesé sur les conseils de sécurité?
Bon, je vous donne un exemple actuel. Vous savez qu'en ce moment, il y a eu plusieurs projets de résolution qui sont passés devant le Conseil de sécurité en ce qui concerne la Syrie. Et à chaque fois, la Chine et la Russie aujourd'hui ont voté contre. Leur vote est un droit de veto. Parce que si c'était un autre pays non permanent, on aurait pu se passer de ce vote-là. Mais lorsque un pays membre permanent du Conseil de sécurité vote non, ça devient un droit de veto, on ne peut plus avancer sur cette décision-là.
Alors, il y a des puissances émergentes comme l'Inde, le Brésil et pourquoi pas l'Afrique du Sud. Y a-t-il une disposition pour un possible élargissement de ce cercle de droit de veto?
Il n'y a pas une disposition, mais il y a une réflexion en place depuis plusieurs années. La réflexion est basée sur le fait qu'avec la fin de la colonisation, avec l'émergence de beaucoup de pays, avec la fin de la guerre froide, avec les nouvelles configurations politiques et économiques que l'on observe dans le monde, les gens, certains pays, trouvent inique cette décision de n'accorder le droit de veto qu'à ces cinq pays. Il y a donc une réflexion en cours au niveau des États, au niveau des Nations Unies, afin de voir comment on pouvait revoir ce droit de veto, voir à qui on pouvait l'attribuer et de quelle manière. Par exemple, vous savez que l'Afrique réclame un ou deux sièges permanents au niveau du Conseil de sécurité, et c'était la question, c'est de savoir si les représentants africains, par exemple, au Conseil de sécurité, devraient avoir ce droit de veto aussi au nom des autres pays africains. Donc, c'est une réflexion qui est en cours.
Est-ce qu'il y a des critères pour cela?
Les critères, ce sont les pays membres qui devraient en discuter, parce qu'effectivement, il va falloir définir les critères sur lesquels ces pays seront désignés.
Une question, une autre question, M. Mouloubaï. Depuis la création des Nations Unies, lesquels des membres permanents du Conseil de sécurité ont le plus exercé leur droit de veto? Est-ce que vous avez une idée là-dessus?
C'est une question difficile. Je n'ai pas une statistique là-dessus, mais je dirais que les pays utilisent ce droit de veto en fonction de leurs intérêts, de ce qu'ils appellent de leurs intérêts nationaux.
Nous passons à un autre concept, c'est quand on parle de membres permanents du Conseil de sécurité. Et est-ce qu'il y a une différence entre un membre permanent, pardon, et un membre non permanent?
Afin que toutes les voix et toutes les sensibilités sur le plan international puissent se faire entendre, les membres permanents ont aussi créé, avec eux, les membres non permanents qui sont votés tous les deux ans sur une base régionale, une base continentale et sur un plan, et c'est rotatif. Donc c'est ainsi que tous les deux ans, vous avez ces votes, il y a des pays qui entrent, il y a des pays qui sortent.
Est-ce qu'on peut avoir un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et être aussi à la fois président de l'Assemblée générale des Nations Unies?
Oui, en principe, rien n'interdit cela. Vous savez, en fait, au sein du Conseil de sécurité, la présidence est rotative. Tous les mois, dans l'ordre alphabétique, on choisit le président du Conseil de sécurité. Au niveau de l'Assemblée générale, c'est les États membres, donc tous les États membres, qui, chaque année, au début de la nouvelle session de l'Assemblée générale, qui est en général le deuxième mardi du mois de septembre, qu'ils élisent le président de l'Assemblée générale. Mais en principe, rien n'interdit qu'un pays se retrouve aussi membre du Conseil de sécurité et assure la présidence du Conseil de sécurité en même temps que son pays assure aussi la présidence de l'Assemblée générale.
On peut considérer cela comme un cumul.
Voilà, il n'y a pas de cumul. Aujourd'hui, c'est dans notre rotatif, donc on ne parle pas de cumul.
Parlons d'un cas vraiment récent. Le Rwanda vient d'être élu comme membre non permanent du Conseil de sécurité, vous le savez. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? Quel rôle le Rwanda va jouer alors au sein du Conseil de sécurité?
Le rôle que le Rwanda va jouer au sein du Conseil de sécurité, c'est le rôle que tous les pays non permanents sont appelés à jouer au sein du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que désormais, le Rwanda sera dans ce petit club fermé qui a pour mission d'être 24 heures sur 24. Ça sera appelé à suivre les questions de sécurité dans le monde. Donc, c'est ce rôle-là que le Rwanda va jouer. Le Rwanda va représenter un des pays africains qui seront dans le Conseil à partir du 1er janvier de l'année prochaine. C'est quelque chose de tout à fait normal. C'est une question de diplomatie.
Monsieur Mouzbaï, je vous remercie.
Je vous remercie.
Il se tient à Kinshasa du 22 octobre au 9 novembre des travaux de la revue de performance du programme de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. L'OMS est impliquée dans l'organisation de ces travaux et selon cette institution onusienne, la morbidité et la mortalité liées au paludisme restent très élevées, dont la moitié sont concentrées dans 5 pays d'Afrique. La RDC occupe la deuxième place après le Nigeria sur cette liste. Et puis, 7500 réfugiés rwandais ont déjà été rapatriés au Rwanda de la RDC cette année par le HCR. Cette information vient de l'administrateur social de cette agence. Ces rapatriés appartiennent aux vagues des Rwandais vivant en République démocratique du Congo depuis 1994. Restons toujours au HCR. Des actes de naissance seront remis dans les prochains jours à au moins 450 enfants déplacés au Nord Kivu. La cérémonie de remise symbolique de ces actes a eu lieu le mercredi 24 octobre dernier au camp Mugunga 3 à l'ouest de Goma. Il s'agit d'un projet dans lequel le HCR et le gouvernement provincial sont partenaires avec comme objectif de prévenir l'apatridie.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Je voulais annoncer, la Cour pénale internationale a totalisé 10 ans d'existence depuis le mois de juillet de l'année en cours. Sur place à La Haye, aux Pays-Bas, vous le savez probablement, certaines personnalités congolaises sont poursuivies et jugées par cette juridiction internationale. À Kinshasa, des manifestations organisées à l'occasion du 10e anniversaire de la CPI se sont clôturées jeudi dernier. Je vous propose donc d'écouter cet entretien que nous a accordé la juge de la CPI, venue dans la capitale congolaise à cet effet, Fatoumata Diarra, au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Madame Diarra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kinshasa pour participer à des journées scientifiques sur les statuts de Rome, l'état des lieux et perspectives pour la justice congolaise. Quelle lecture faites-vous justement de cette justice en termes de collaboration avec votre cour?
La RDC, la République démocratique du Congo, est considérée comme un État qui coopère avec la cour, notamment en matière d'exécution des mandats d'arrêt, de nos mandats d'arrêt concernant Thomas Lubanga, Mathieu Ngunjolo, Germain Katanga. En ce qui concerne Bosco Takanda, le mandat n'est pas encore exécuté. Nous nous permettons d'être optimistes parce que nous n'avons pas d'autres alternatives quand les mandats ne sont pas exécutés. Malheureusement, le mandat d'arrêt contre Bosco Takanda n'est pas le seul mandat non exécuté. Nous connaissons d'autres non-exécutions du mandat d'arrêt qui bloquent notre travail.
Mais qu'est-ce que la CPI aujourd'hui pour aider la justice congolaise?
Pour aider la justice congolaise, en réalité, cela ne se pose qu'en termes d'échange d'expérience. Notamment, la jurisprudence de la Cour peut inspirer la justice congolaise. Et les journées scientifiques comme celles pour lesquelles je suis là aujourd'hui sont aussi des occasions d'échange et d'enrichissement mutuel entre les agents de la Cour et la justice congolaise. Et ma présence aux présentes journées est l'illustration de la disponibilité et de la volonté de la Cour à accompagner la justice congolaise dans ses efforts d'amélioration.
Madame Diarra, il y a 10 ans, la CPI ouvrait ses portes avec 22 mandats d'arrêt délivrés, 16 affaires portées devant elle, 121 états partis du statut de Rome et un seul verdict prononcé jusque-là, celui du Congolais Thomas Lubanga. Êtes-vous satisfaite de ces bilans par rapport à la mission de la CPI de lutter contre l'impunité dans le monde?
Il s'agit en réalité de 10 années d'existence théorique, car en réalité, c'est après la mise en œuvre du statut que des élections des juges et du procureur ont eu lieu. Toujours est-il que nous-mêmes, nous avons un sentiment mitigé, parce que même si les difficultés ne viennent pas de nous-mêmes à partir du moment où elles nous empêchent d'aller à la vitesse que nous souhaitons, nous ne pouvons pas parler de satisfaction.
Revenons sur les travaux de Kinshasa avec votre intervention qui est axée entre autres sur la durée des procédures devant la Cour face au respect du procès juste et équitable. Cela nous inspire notamment sur la durée du procès Jean-Pierre Bemba. Ça fait exactement 5 ans que le président du MLC est détenu à la CPI. Qu'est-ce qui justifie une si longue détention sans prononcer du jugement?
Ok. C'est regrettable, mais la durée de la phase préliminaire concernant l'affaire Bemba a pris un retard à cause d'un changement intervenu au niveau de la composition de la Chambre. Comme on vous l'a dit tantôt, moi-même j'étais présidente de cette Chambre. Dès que j'ai été élue à la première vice-présidence, j'ai été remplacée par le juge Mauro Politi, qui ne pouvait. C'est pas facile de prendre le bateau en marche dans une matière de procédure pénale internationale. Il a eu besoin de temps pour maîtriser le dossier afin de participer efficacement à l'audience de confirmation des charges. Bon, depuis la confirmation des charges et que le procès est ouvert, le retard est dû à la nature complexe de la procédure. Il y a les problèmes de traduction, les problèmes d'expurgation de l'identité des témoins et des victimes pour leur éviter des représailles. Il y a la longue distance qui sépare les témoins du siège de la Cour. Sinon, il n'y a aucune raison politique qui puisse justifier ce retard que nous-mêmes déplorons avant tout le monde.
Et c'est même la réponse que vous donnez à tous ceux qui dénoncent un procès non équitable et une détention délibérée pour tenir Jean-Pierre Bemba hors du jeu politique en RDC?
La Cour pénale n'a rien à voir avec le jeu politique en RDC et les faits qui sont reprochés à Jean-Pierre Bemba sont des faits qui sont intervenus en République centrafricaine et c'est d'ailleurs l'État de Centrafrique qui a déféré l'affaire Jean-Pierre Bemba à la CPI et non le gouvernement congolais. Il faut que cela soit connu de tout le monde. Et puis, concernant Jean-Pierre Bemba, on avait beaucoup de décisions et beaucoup d'enquêtes à mener à travers le monde qui n'ont pas toutes eu la diligence requise. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ce retard que nous déplorons. Mais je peux vous assurer qu'en 2013, très prochainement, il aura son jugement parce que le procès est pratiquement en sa phase finale.
Parlons à présent du 10e anniversaire de la CPI avec les messages en mars dernier. de Madame Tina Intelman, j'espère que c'est bien prononcé, la présidente de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, qui a appelé ces derniers à célébrer cet anniversaire en privilégiant l'universalité du statut de Rome. Qu'entendez-vous par là?
Universalité veut dire que tous les États de la planète deviennent États partis au statut de Rome. Donc, tant que nous n'avons pas atteint cet objectif, nous continuons la lutte pour l'universalité. Mais quand vous pensez que la Cour a ouvert ses portes en juillet 2002 avec 60 États, et qu'aujourd'hui nous sommes à 121 États, bon, on peut dire que l'optimisme est permis, mais nous devons continuer l'information, la sensibilisation.
Et donc, nous vous rejoignons quand vous dites que l'universalité n'est pas encore effective, surtout quand on sait qu'il y a des pays comme du Rwanda et du Soudan qui commettent des graves violations des droits de l'homme et qui refusent jusqu'à aujourd'hui d'adhérer à ces statuts.
Malheureusement, l'adhésion est libre. Nous n'avons aucun moyen de contrainte ou de coercition pour faire venir un État. Ils ne sont pas les seuls. Il y a les plus grands États, la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis, qui ne sont pas encore États partis. Mais notre combat, c'est d'inspirer confiance à tous ces récalcitrants pour qu'ils fassent un pas vers la Cour. Donc, le Soudan auquel vous faites allusion, au Soudan, il y a l'affaire du Darfour qui a été déférée par le Conseil de sécurité devant la CPI. Et la CPI a eu à interpeller certaines personnes du Soudan. D'autres n'ont pas répondu et n'ont pas pu être arrêtés, comme le président El-Bashir. Mais nous avons espoir. Malheureusement, ce Conseil de sécurité aussi ne défère pas tous les cas que les gens escomptent. Mais ça aussi, on espère une amélioration.
Merci, madame.
Je vous en prie.
Direction le Katanga pour la nouvelle de province. Une mission conjointe MONUSCO, agence humanitaire et gouvernement provincial du Katanga séjourne depuis mercredi dernier à Mitouaba. Objectif, lancer officiellement l'opération de réédition d'une centaine de combattants Maïmaï basés à Mupanga, un village situé à 38 km de Mitouaba centre. La délégation s'est rendue dans ce village pour parler avec les combattants Maïmaï. À Mitouaba, Colin Djouma Moussompo.
Nous prenons la grande parole, le ministre provincial de l'Intérieur du Katanga a fait savoir au Maïmaï certaines dispositions mises en place par le gouvernement provincial du Katanga pour la réussite de cette opération. Le chef de bureau de la MONUSCO a quant à lui estimé besoin de voir ce combattant Maïmaï arrêter leur mouvement et s'impliquer dans la logique de la paix. Les fils et les filles de Mitouaba ont plus besoin de la paix qui leur permettra de retourner à leurs travaux de champ. Réagissant à ces deux déclarations, Kaïsi, le chef Maïmaï dit être disposé de déposer leurs armes sous une condition de se remettre à leur hiérarchie. En plus, ils se disent appartenir au mouvement des peuples du Katanga, créé en 1968, réclamant l'indépendance du Katanga. Pour l'heure, on ne peut pas parler de la réédition tant qu'il n'existe aucune disposition prévoyant le sort de leurs combattants. Les membres de la délégation se disent confiants et promettent de rencontrer ce Maïmaï ce jeudi de Mitouaba. Colin Djouma Moussompo, Radio Okapi.
Magazine de la Chance Unie. Portrait du jour.
Je m'appelle Jimmy Dieu, je suis mariée. Je fais mes études primaires et secondaires en Belgique. Et l'Université Catholique de Louvain, toujours en Belgique. J'ai un master en information et communication. Je suis actuellement chargée de communication pour le projet des Nations Unies, pour les développements, pour le pays. Nous avons une unité de communication à Kinshasa, au bureau pays. Et moi, je suis basée à Goma et je suis chargée de faire remonter les informations pertinentes à Kinshasa. Donc, mon rôle principal, en fait, c'est de maximiser la visibilité de notre agence et de montrer, de faire connaître nos résultats, nos changements que nous apportons dans la vie de nos bénéficiaires. Donc, pour ça, je peux travailler avec les médias. Je peux participer aux publications clés, que ce soit la coordination ou le contenu, avec bien sûr l'écriture, mais aussi tout ce de photographie, vidéo et de mon témoignage au sens large. Je travaille aussi un peu sur les médias sociaux, sur notre site internet et sur notre chaîne. Et je m'occupe également de tout ce qui est événements, donc bien sûr locaux, dans l'esprit de la RDC, que ce soit en termes de nos émissions importantes, des visites de presse, ou plus externes avec les bailleurs de France. Donc ça fait un an que je suis ici à Goma. Et avant ça, j'ai travaillé en Belgique, toujours dans la communication, mais dans le secteur privé. C'était à la fois la même chose, dans le sens où c'était quand même se mettre en avant, vendre nos résultats, essayer de développer nos activités. Mais le but était différent, c'était aussi de faire du développement humain et pérenne. Pour le temps libre, ici à Goma, il y a un couvre-feu à 20h. Et il faut quitter le bureau, il faut essayer d'être à la maison avant de finir son noir à cause de l'insécurité. Donc le temps libre est assez restreint, disons. J'essaie d'aller au sport deux fois par semaine. Et sinon, j'aime bien lire. J'ai une tablette électronique et j'ai acheté des fichiers, des livres électroniques sur Internet. Donc ça marche très bien. Et voilà, ouais, sinon, j'aime bien voir mes amis, mes connaissances. Ça devient un peu difficile de sortir, mais surtout le week-end que deux enfants avec ses enfants. Et pour l'avenir, il faudrait continuer à travailler dans le non-marchand, que ce soit développement ou humanitaire, pour peut-être aider les gens à sortir de la pauvreté, par exemple, ou pour forcer l'État à offrir les services sociaux de base à ses citoyens, ou alors dans l'humanitaire plus en urgence, pour vraiment aller aider les gens en détresse qui en ont besoin. Et sinon, sur un plan plus personnel, j'aimerais bien fonder une famille.
Magazine des Nations Unies, le soin aux Nations Unies.
Mon nom est Delor Longo, je suis étudiant à l'Université catholique du Congo. Ma question s'adresse au FNIAP. Le monde a célébré le 11 octobre la journée internationale de la jeune fille. Parmi les mots qui rongent la vie de la jeune fille ici en République démocratique du Congo et en Afrique, il y a les mariages précoces. Quelle est la politique du FNIAP en cette matière dans la planification familiale?
Delor Longo, merci pour la question. Restez branchés pour écouter la réponse que vous donne le coordonnateur des programmes du bureau décentralisé du FNIAP Kinshasa. Il s'agit du docteur Pierre Chamoul.
Pour les fonds des Nations Unies pour la population UNFP, les jeunes constituent notre cible. Et les interventions que nous menons en faveur des jeunes portent essentiellement sur les questions liées à la sexualité précoce, les questions liées à leur santé de la reproduction, les questions liées à la paternité responsable, maternité responsable. C'est pour cela que les mariages précoces, ça fait partie d'un domaine que nous abordons, d'abord pour décourager, étant donné que pour nous, les mariages précoces, ça constitue même une violence faite à la femme, parce que quand on marie une fille avant l'âge majeur, donc qui pour le moment dans notre code de famille c'est 18 ans, donc c'est un mariage précoce, et en même temps c'est une violation faite à la femme. C'est pour cela que dans le cadre de notre intervention, nous faisons beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de sensibilisation avec les ONG, les associations de jeunes que nous avons regroupées en réseau pour pouvoir décourager ce genre de pratiques et en même temps les plaidoyer envers les législateurs, envers les hommes de droit pour que pareille situation soit découragée de la manière la plus forte possible.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitaine.
Tous à vos agendas pour noter le seul rendez-vous de la semaine qui commence. Du 29 au 31 octobre, des journées portes ouvertes seront organisées pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité en RDC. L'organisateur de ces journées, qui est le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, bénéficiera de l'appui du système des Nations Unies. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine. Jean-Pierre Elali et Honoré Missinga étaient au reportage sous la supervision de Nicole Ngakamadizi. Au micro, vous avez probablement reconnu la voix de Mireille Boukassa-Mukendi. À 19h03, heure de Kinshasa, vous pouvez réécouter cette émission, mais aussi sur notre site internet, radiotapi.net. Merci de votre fidélité. À la prochaine.